Bienvenue dans la chronique radiophonique à la confluence de l'art, et de l'histoire. Parlons ensemble d'art et d'histoire en Occitanie. Bonjour à tous, c'est Mathis Légiedreau. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première émission de la chronique radiophonique à la confluence de l'art et de l'histoire. Le sujet de cette première émission est le processus d'abandon des remparts de la ville d'Elbi au XVIIIe siècle. Avant de commencer, je tenais à préciser que cette émission a été en grande partie conçue par Stéphanie Corso, médiatrice culturelle aux archives départementales du Tarn, que je remercie. Elbi au XVIIe siècle est une ville encore corsetée de remparts où l'on enterre les morts au pied des églises paroissiales. Mais au XVIIIe siècle, les Albigeois ont abandonné leurs fortifications, découvrons ensemble le processus d'abandon des remparts de la ville d'Elbi. L'idée de cette émission est d'utiliser des documents archivistiques pour mettre en évidence le processus d'abandon. Les quatre documents présentés sont conservés aux archives départementales du Tarn. Les deux premiers textes, de 1732 et 1750, sont extraits des délibérations du conseil politique de la ville d'Elbi. Les deux autres, de 1751 et 1761, appartiennent au fonds privé Émile Jolibois, archiviste du Tarn dès 1859 et jusqu'en 1890. Plus de détails seront apportés sur les documents au fil de l'émission. Pour commencer l'émission, voici un bref historique des remparts. Des remparts en terre existaient à Elbi avant 1190, mais ils répondaient seulement à une protection minimale en vue du matériau. Avec la guerre de Cent Ans et son ampleur, une nouvelle muraille est construite de 1340 à 1390 à la demande de l'évêque de la cité. Le matériau utilisé est désormais la brique d'argile de l'Albigeois, dite foraine. La muraille se détériore rapidement à cause de travaux réalisés dès 1732. À partir de 1751, un projet ayant pour but de détruire la muraille fatiguée pour en reconstruire une nouvelle est en cours. Celui-ci n'aboutit pas, pour cause notamment l'ouverture de la ville avec la construction de la route royale reliant Toulouse à Lyon. Et la muraille est détruite de 1761 à 1771. Aujourd'hui, il reste quelques vestiges de la muraille d'Elbi, comme le mur de la rue Caminade. Aussi, les vestiges situés au pied de la maison du Bosc, demeure natale du peintre Toulouse-Lautrec, sont intéressants. Pour terminer, je citerai l'ensemble défensif aux abords du Tarn contenant le mur des chanoines qui séparait Elbi du Castelviel, alors communauté indépendante, et les fortifications du palais de la Berbie du XIVe siècle. Avant de poursuivre l'émission, voici une pause musicale. nous nous retrouvons pour parler du premier document. Le premier document est une délibération du conseil politique de la ville d'Albi, datée du 19 juin 1732. En 1732, la période est calme et elle est donc propice à la réparation d'édifices qui se seraient très dégradés durant les siècles précédents. L'état de la muraille préoccupe plus particulièrement la ville d'Albi, qui ne dispose que d'un budget limité comparé aux moyens à engager. Les remparts de la ville sont composés notamment de 24 tours et de corps de garde, au-dessus des 6 portes de la ville, dont celle du Vigan était la plus prestigieuse. D'une épaisseur de 3,50 m, dans leur partie supérieure, ces corps de garde sont surmontés de galeries couvertes, alors en très mauvais état. Dans ce document de 1732, on découvre que des commissaires ont été missionnés pour inspecter la muraille d'Albi. Il ressort de leur examen que les travaux de réparation sont bien trop importants au regard des moyens dont dispose la ville, comme dit précédemment dans l'émission. Dans ce contexte, le maire juge les galeries couvertes qui surplombent les corps de garde inutiles et incommodes, autant le plus à entretenir et réparer. Il propose donc à l'Assemblée de les détruire. Cette démolition présenterait alors, selon lui, un double intérêt du fait de l'amélioration de la qualité de l'air dans la ville et de la récupération de briques pour réparer les remparts qui menacent de s'écrouler. Nous voilà arrivés en 1750. À cette date, nous apprenons que la ville a obtenu l'autorisation de détruire les galeries couvertes sur la muraille, mais cela aggrave la situation car les briques du haut des murs sont endommagées par les caprices du ciel que sont les pluies. Une partie de la muraille s'effondre en 1736, près de la Porte Neuve. Le reste est démoli pour protéger les maisons à proximité. Dans le document étudié pour l'émission, datant de 1750, le maire d'Albi évoque les travaux effectués aux alentours de 1725, mais surtout les dégâts causés par la pluie, en particulier pendant l'hiver 1748, qui amena le maire à solliciter, auprès de l'intendant du Languedoc, la venue d'un expert pour poser un devis du coût de la réparation des murailles. Cet homme, du nom de Glaise, vient de l'Académie des sciences de Toulouse. De son rapport, il ressort qu'il en coûterait à la ville 55 000 livres pour effectuer les réparations nécessaires. Le maire, au regard du coût considérable, juge les réparations inutiles et préconise de démolir les anciens remparts depuis la porte de Verdus jusqu'à celle du Tarn, de construire un mur allant du séminaire jusqu'au pont de Verdus pour compléter les ravins naturels bordant la ville. Ce projet, qui englobe les faubourgs de Renelle et du Vigan, présente de nombreux intérêts selon le maire, dont un faible coût de 15 000 livres. Pour clarifier les informations évoquées précédemment, voici un bilan des deux premiers documents. La ville détruit les galeries couvertes des remparts car des épidémies se font remarquer de par le manque de lumière. Mais cette démolition n'a que provoqué une dégradation profonde du système défensif qui obligea la ville à demander un devis de réparation. Le maire choisit au final une solution peu coûteuse qui est de ne pas réparer mais de démolir les murs vétustes et de reconstruire par la suite. Un an vient de s'écouler et nous apprenons que la ville envisage de détruire l'entièreté des remparts et de les reconstruire. L'archevêque seigneur d'Albi, Dominique II de Rochefoucauld, a sollicité l'autorité royale pour obtenir l'autorisation de réaliser ces travaux. Le directeur des fortifications de la province du Languedoc a fait part de ses réticences sur la réalisation de ce projet au roi. Son correspondant tient compte de son avis et rejette alors la demande de l'archevêque albigeois. Voici désormais la dernière analyse du dernier document de l'émission, celui de 1761. Le 18e siècle est une période de prospérité économique dans tout le royaume, et spécialement dans le Languedoc. Albi, comme de nombreuses villes de la province, est à l'étroit dans ces vieux remparts qui tombent en ruine. Le projet de reconstruction de 1751 a été refusé par l'autorité royale, mais la ville d'Albi voit dans la construction de la route royale reliant Toulouse à Lyon une deuxième opportunité. En effet, en 1758, des ouvertures sont effectuées dans les remparts à proximité du pont du Tarn, actuel pont vieux. En 1761, M. Laroche, ingénieur des ponts et chaussées, à la demande de la communauté d'Albi, évalue le coût des réparations des remparts. Compte tenu de la somme importante que cela représente, il suggère à la ville de reconstruire la muraille. La communauté engage les travaux, mais sollicite l'archevêque de Choiseul-Stainville pour obtenir un soutien du roi. Ce courrier de 1761 nous confirme que le premier projet adressé en 1751 par le seigneur d'Albi n'avait pas été approuvé par l'autorité royale. Celle-ci craignait en effet que la ville ne soit pas en capacité de réaliser l'ensemble des travaux projetés. A contrario, le roi approuve le nouveau projet de la ville d'Albi. La construction envisagée, tout en étant plus modeste qu'en 1751, agrandit la ville à l'est puisque la nouvelle enceinte va renfermer dans son contour la plus grande partie du faubourg du Vigan. Pour autant, le roi demande à ce que l'ancienne muraille ne soit détruite que lorsque la ville se sera assurée de pouvoir construire la nouvelle, afin que la ville ne demeure pas longtemps ouverte. Ce courrier met en évidence les rouages administratifs de la décision. En premier lieu, la ville a pris une délibération pour détruire et reconstruire ses remparts. Elle s'en réfère à son seigneur, l'archevêque de Choiseul-Stainville. Deuxièmement, la demande est transmise au directeur des fortifications, Monsieur Maréchal, ingénieur du roi dans la province du Languedoc, basé à Montpellier. Ensuite, le directeur des fortifications s'en réfère à la cour royale à Versailles. Puis, le roi valide le projet et en informe l'intendant de la province du Languedoc, le vicomte de Saint-Priest, nommé en 1751. Pour terminer, l'intendant de la province émet une ordonnance autorisant l'exécution des travaux. Pour conclure, dès 1732, les habitants vivant près des remparts constatent et critiquent un problème de conception qui nuit à leur qualité de vie. Épidémie, manque de lumière, etc. Puis, en 1750, les habitants se plaignent de l'état déplorable de l'enceinte urbaine qui croule de tous côtés. Ils souhaitent la détruire et reconstruire une nouvelle. Grâce au soutien du roi, dont annuel de 6000 livres, et de l'archevêque, les travaux sont rapidement engagés et se poursuivent sur au moins une décennie. L'urbanisme de la ville s'en trouve profondément modifié. Albi s'ouvre. Encore un grand merci à Stéphanie Corso, aux archives départementales du Tarn, mais aussi à Bérengère et Will. N'hésitez pas à vous rendre sur le site www.histalm.com. C'est le site officiel de l'outil de démocratisation de l'art et de l'histoire que j'ai fondé. À très vite pour une nouvelle émission.